au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Bienvenue à Auto 360. J'espère que vous allez bien. Daniel Boudreau en compagnie de Marc Bouchard, Philippe Lagu. Je vais parler à mes collègues dans un instant. Aussi, un petit peu plus tard à l'émission, je vais parler avec Jesse Caron du CA Québec. Il va nous parler un peu du salon de Tokyo. Il va nous parler aussi de pneus d'hiver. Pourquoi pas? On en a parlé abondamment, mais il va revenir avec des points un peu différents. Et bien sûr, évidemment, cette émission vous appartient. Alors, nous allons répondre à vos questions. Et pour amener la question, je me suis penché un petit peu sur le prix de l'essence. Encore une augmentation démesurée, à mon avis, 15 cents, 16 cents, dépendamment des régions. On sait que ça a augmenté énormément. Et je me suis dit, ben là, qu'est-ce qui se passe? Y a-tu Irma? Non, Irma est partie. Harvey aussi. Il n'y a pas de catastrophe à nulle part. Il n'y a rien. Est-ce qu'il y a un bateau qui a coulé? Non, pas de bateau. Donc, c'est le transport. Est-ce que c'est le raffinage, le brut? Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau... Ben là, je fouille ça un petit peu. Et là, je tombe sur une pression à la hausse des prix due à l'entente de l'OPEP, les pays producteurs, évidemment, et la Russie. Bon, c'est pas nouveau, là. Et on sait qu'eux autres, là, essaient de travailler ensemble pour maintenir un prix du marché ou une production pour s'entendre, surtout sur la production. Et là, on s'est entendu avec la Russie, l'OPEP, la Russie, sur une production un peu diminuée comparativement à ce qu'on a d'habitude. Donc, on dit OK, jusque-là, bon, ça peut arriver. Sauf que la Russie respecte l'entente. Hein? On dit, Daniel, qu'est-ce qui se passe là? Ben oui! La plupart du temps, la Russie ne respectait pas ses ententes. Donc, plus ou moins, l'entente pouvait tenir. Et là, cette entente-là, elle est signée jusqu'en mars 2018 quand même. Donc là, OK, bon, là, ça fonctionne. Sauf que ce qui vient jouer dans l'équation, c'est que les États-Unis également ont réduit leur production. Donc, la production est réduite en passant de 737 puits à 729 puits. Donc, on a un peu moins de production du côté des États-Unis, ce qui fait évidemment que les stocks, les réserves sont un peu plus basses, la demande est forte. Alors, les prix sont à la hausse. Hey, faut-tu aller chercher loin pour trouver une justification? La Russie qui respecte leur entente, les États-Unis qui, par un concours de circonstances, produisent un petit peu moins. Et là, on voit, si on regarde le prix quand même du baril, là, si on regarde le Light Sweet Crude, qui est l'indice nord-américain, c'est 56 $ ou à peu près en ce moment pour livraison en décembre, 62 $ pour livraison en janvier pour ce qui est du Brent, c'est l'indice européen de Londres. Alors, tout ça fait en sorte que on passe à peu près de 50 $ le baril en septembre, là, ou dans ces coins-là, jusqu'à 56 et 62 $. Est-ce que ça justifie un 15 sous? Probablement pas, là, les prix actuels. Là, lorsque le baril est au-delà de, ou tout près de 100 $, le prix est à 1,50. Donc, on voit, si on fait une règle de 3, que ça ne fonctionne pas. Alors, la marge bénéficiaire au niveau du brut est assez élevée. La marge au détaillant également est assez élevée. Donc, le prix devrait diminuer graduellement encore de quelques sous, mais il reste que la structure... Moi, je t'écœure. La structure de façon... De gérer le prix de l'industrie du pétrole. Je suis content de l'arrivée de la voiture électrique. Bravo pour ceux qui ont des voitures électriques. Tapez-vous dans les mains aujourd'hui. Je suis fier de vous autres et j'ai hâte que... écoute, la pression vers le bas pour la demande de pétrole va être en 2025 dû à la voiture électrique. Ça va être significatif à partir de 2035. Donc, on a quand même un bon bout de temps à gérer le prix de l'essence, mais il reste qu'on s'en va dans la bonne direction. Parce que là, on ne sait pas qui blâmer. Avec la voiture électrique, ça va être facile. Parce que collectivement, on va payer, ça va être le prix de l'électricité. Le gouvernement va fixer le prix de l'électricité. Il ne perdra pas les revenus de l'essence. Là. On va chercher beaucoup trop d'argent avec les taxes sur l'essence. C'est budgété, cet argent-là. Et dès que l'argent va commencer à diminuer dû à une demande un peu moins forte de l'essence, ben on va augmenter les prix de l'électricité. C'est écrit dans le ciel. C'est écrit dans le ciel. Mais au moins, on va savoir à qui blâmer. L'argent va rester ici. Puis on va voir, là, si on n'est pas content de la façon qu'il gère, on va changer le gouvernement, tout simplement. Ça ne sera pas plus compliqué que ça. Mais au moins, on va savoir directement qui blâmer. Là, avec le prix de l'essence actuellement, tu regardes les structures, tu sais, blâme Irma. Oui, Irma arrive à partie, Harvey est parti. Là, on doit trouver d'autres choses pour justifier l'augmentation. C'est épouvantable. Alors, parlez-moi, chialez sur le prix de l'essence ou pétez-vous les bretelles puisque vous avez une voiture électrique. les numéros pour me joindre et pour nous poser des questions. Pour Montréal, 514-790-9850, Québec 418-670-9330, ailleurs 1-866-790-9850 ou auto360 à cogecomedia.com. Ça a pris du temps, mais on y arrive. Salut Marc!
Salut mon cher, ouais, t'étais parti. Comment ça va? J'ai failli t'interrompre une couple de fois, mais j'ai dit je vais le laisser aller.
Ça a pris du temps, mais c'était très instructif.
Salut Philippe!
Chapeau quand même. Non, mais sérieusement, là, ça là, c'était du très bon travail, Daniel.
Merci beaucoup Philippe.
Excellent.
Là, la question qu'il faut continuer de poser, cependant, c'est oui, c'est vrai, les ententes internationales jouent sur le prix. Il y a aussi un paquet d'ententes régionales qui jouent sur le prix. Moi, je vais pas vous écœurer, les gars, mais là où je demeure, c'est à 1,9 le litre actuellement.
Quelques guerres de secteurs, effectivement, qui nous sauvent.
Ça, ça joue. Puis on est toujours beaucoup, beaucoup plus bas. Alors ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que de parler d'électricité et de contrôle des prix. Rappelle-toi qu'on a maintenant des compteurs intelligents, que ces compteurs devraient permettre à Hydro-Québec aussi de moduler les tarifs en fonction de nos besoins. Alors, honnêtement, je suis pas certain que ça va être une grande économie pour bien longtemps l'électricité non plus, là.
Ah ouais, ça je sais, mais en tout cas, à tout le moins, on verra bien. Philippe, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Une journée où je parle de voitures italiennes est une bonne journée.
Oh!
Et okay. Aujourd'hui, c'est doublement une bonne journée parce qu'on va parler de deux marques italienne, deux des membres de la Sainte Trinité italienne, c'est-à-dire Ferrari, Maserati, Lamborghini. Aujourd'hui, on va parler de Maserati et de Lamborghini parce que Ferrari, faut pas se compter de menterie, là. Une émission, on en a pas assez. Alors okay. Ça, on va se garder un bloc, en tout cas, dans l'émission, on en a pas assez. Alors ça, on va se garder ça pour les prochaines semaines, là. Mais aujourd'hui, je vais vous faire un grand résumé parce que c'est deux marques qui ont des très grandes histoires, qui ont toutes les deux un patrimoine très riche. Mais on va se faire un résumé de la grande histoire de Maserati et de Lamborghini.
Parfait, Philippe, on se reparle tout à l'heure. Alors, Marc, tu as plusieurs nouvelles de l'industrie également. Là, il y a plusieurs petites nouvelles qu'on va pouvoir traiter ici et là.
Effectivement, écoute, ça a été quand même une semaine assez mouvementée. Il y avait bien sûr le SEMA Show, on va en parler un peu plus tard, qui se déroulait à Las Vegas, une espèce de salon, mais je n'ose pas appeler ça un salon de l'auto, là. C'est un salon de l'affaire la plus personnalisée que tu peux trouver au monde.
C'est une foire. C'est une foire de l'automobile.
C'est une foire commerciale où on a...
J'espère
qu'il y a plein d'éléments là.
Ben oui, il y a quelque chose là-bas. C'est vraiment le fun. C'est un peu bébelle, mais c'est le fun. Et j'espère que tu vas me parler de Tesla, j'espère que tu vas me parler de BMW parce qu'il y a des rappels et plein d'autres choses. On fait une pause. Et au retour, parlez-moi.
Au réseau Cogeco, Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures. C'est en tout cas.
Auto 360.
Auto 360. Les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard.
Oui, les nouvelles de l'industrie, parce qu'il y en a plusieurs, je vous ai rappelé, et je vous rappelle plutôt la question du jour, chialer sur le prix de l'essence. Allez-y, amusez-vous, laissez-vous aller. Ou pétez-vous les bretelles, parce que vous avez une voiture électrique et vous n'en avez que faire du prix de l'essence. Alors, Marc, les nouvelles de l'industrie.
Si on a une Tesla, on va peut-être se péter un peu moins les bretelles, par exemple.
Non, parce que... brise pas la culture et les rêves des gens qui sont en Tesla, Marc.
La compagnie Tesla a subi une tonne de revers cette semaine. La première, évidemment, c'est l'annonce de ses résultats financiers. La perte la plus importante de son histoire, 619 millions en 3 mois. Je comprends que pour toi, c'est pas si... gros que ça, mais pour les gens normaux, c'est pas mal d'argent. On a augmenté malgré tout les investissements dans la super usine, la Giga Factory à Las Vegas, mais on n'est toujours pas capable de produire la Model 3. En fait, on devait en produire 5000, on en a produit exactement 260. Et là, on est rendu à la fin du premier trimestre de 2018 pour les premières 5000, mais évidemment, on va attendre. On avait, tu te rappelles, il y a quelques semaines, congédié des centaines de personnes.
Ouais.
Mais là, on a annulé la commande pour les équipements pour la deuxième ligne de montage de la Model 3. Donc, on n'aura pas la deuxième ligne de montage. Et le titre de Tesla a chuté de plus de 5% et continue d'être en baisse. Alors, ça va pas super bien pour la compagnie californienne qui, malgré tout, faut le dire, a vendu plus de Model S et de Model X que jamais. Ils en ont vendu 25 000 en 3 mois.
Combien vont-ils réussir à produire de véhicules l'année modèle 2018? On devrait faire un pot On devrait faire un pool là, sur qu'est-ce qu'il est promis. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous promettre, qu'est-ce qu'ils nous ont promis de production et qu'est-ce qu'ils vont faire en réalité. Et moi, au total tout de la production, je ne pense pas qu'ils vont dépasser 100 000 véhicules.
Ah ben non, c'est sûr que non.
Puis ben là, en fait, ils parlent de 10 000 par semaine. Là, à un moment donné, ils veulent monter à 10 000 par semaine.
Oui, mais là, on est rendu à 5 000 à la fin du premier trimestre de 2018.
Ouais, alors des modèles 3, là, il faut ajouter les modèles S, modèles X, là.
Oui, mais là, à force d'investir dans le reste, ils ne peuvent pas en produire tant que ça, des modèles S, là. T'sais, le problème, d'ailleurs, c'est là, c'est qu'ils disent on a tellement eu un goulot d'étranglement à produire des modèles S qu'on n'a pas pu mettre les ressources nécessaires pour la Model 3. Alors, s'ils se lancent dans la production massive de Model 3, ça veut dire que ça va canaliser toute l'énergie puis ça va diminuer la production de la Model S. T'sais, un dans l'autre, là, ils grossissent pas si vite que ça. Alors, honnêtement, moi, je vais commencer par voir quand est-ce qu'ils vont livrer là, 5 000 premières. Je te rappelle qu'ils en ont 400 000 à livrer. Et 5 000 après 6 mois, on verra ce que ça va donner. Mais je suis d'accord avec toi, je prendrais bien un pôle. J'avais déjà pris une gageure pour cette année que j'étais pour monter les marches de l'oratoire dans mon plus simple habillement. Si jamais ils livraient les modèles 3 en novembre au Canada, vous êtes chanceux, vous verrez pas ça.
Non. Dans les deux sens.
Exactement.
Alors, nous avons Daniel en ligne, on va lui parler. Bonjour, Daniel.
Bonjour, ça va?
Ben oui.
Je suis peut-être pas de la bonne personne pour le prix du gaz, là, parce que moi, en fait, c'est des informations. Je suis en train de regarder pour un Sorento 2013. Okay. C'est le EX Luxury, le V6, là, tout en cuir, là. Je pense que ça date.
Absolument.
Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez là, au point de vue motorisation et ainsi de suite. Là, ça doit consommer ou plus?
Oui, ça consomme, mais le prix, l'avantage de ce véhicule-là, c'est qu'il ne doit pas être trop cher. Alors,
en 2013, il demande 16 900.
Il y a combien de kilométrage?
91 500. Vous êtes chanceux, je suis en direct, je suis direct là.
Notre salle des nouvelles est en train de vérifier le prix. Pour le reste, au niveau de la qualité mécanique, je vais vous dire, puis je le connais bien, le Sorento, son moteur, oui, il consomme un peu de carburant, mais ça n'a rien à voir parce que c'est un véhicule d'occasion et que dans ces années-là, vous ne sauverez pas énormément d'argent à aller acheter un véhicule concurrent semblable. Alors ça, moi, ça ne me dérange pas. Ce que moi, je vous dis, c'est qu'au niveau de la qualité mécanique, le moteur il va faire le travail au niveau du V6. Même le 4 cylindres, dans ces années-là, je le recommande. La faiblesse est au niveau des composantes de suspension. Composantes de suspension, vous allez voir, c'est un véhicule un petit peu plus mou, qui devient un peu plus mou. Et ça, c'est tel que tel. Et au niveau des freins, il ne faut pas oublier, il ne faut pas négliger de les faire nettoyer ces freins parce que vous allez vous retrouver avec l'usure inégale sur vos plaquettes et aussi sur les disques. Alors ça, c'est primordial. Pour le reste, c'est tel que tel, je pense que ça peut bien aller.
OK, oui, il n'y a pas de différence que ça soit 93 ou 94, 95, là, parce que je pense qu'elle va changer le moteur un peu là-dedans, non?
Ben, le 3.3 a changé pour le 3.5 à un moment donné. Je ne me souviens pas de l'année.
2012,
ouais,
ça, c'est un 3.5
2013.
Ouais, c'est un 3.5 qui
marche. Parce que voyez-vous, moi, j'ai vérifié le prix. Le LX V6, 4 roues motrices, évidemment. On parle d'un prix qui vaut à peu près 15 700 $. Donc, à 16 000, vous êtes vraiment pas loin du prix. Si c'est le LX, il existe
certaines versions. C'est le EX.
EX Luxury V6 en cuir avec le tour panoramique, patati patata, là. Pas mal de full equip.
À ce prix-là, vous êtes dedans, vous regretterez rien. C'est un bon prix, vous avez beaucoup d'équipement, vous avez un véhicule qui est résistant, qui est solide. Oui, un peu cher de sens, mais pas tant que ça, à moins que vous le forciez vraiment beaucoup.
Vous êtes dedans, vous êtes dans mon prix. Il n'y a jamais de série parce qu'il n'y a pas de hinch, là, ou c'est ça qu'on dit, un hinch?
Oui, il n'y a pas d'attache remorque.
Il n'y a pas d'attache remorque.
Il n'y a pas d'attache remorque, donc... Ça, en ville, et cet hiver, vous allez trouver que ça consomme un peu. Sur la grande route, vous allez voir que c'est quand même pas si pire que ça pour la dimension du véhicule. Merci beaucoup d'avoir appelé Daniel. Stéphane est en ligne. Bonjour, Stéphane.
Bonjour à vous. Ça va bien?
Ben oui, ça va bien. Merci d'appeler.
Écoute, je suis en train de regarder, et puis c'est le complexe du gars de construction. Moi, je demeure à Jersey, je travaille à Montréal. Je tire jamais, et je suis en train de regarder pour un pick-up pleine grandeur. Mais je veux y aller au niveau de l'économie d'avant. C'est drôle à dire pour un pick-up plein de grandeur. Mais au niveau du Ford F-150, qu'est-ce que vous pensez du 2.7 biturbo ou du 3.5?
Non, ben là, attends. Je vous arrête là. faut aller avec le 2.7 si vous voulez avoir de l'économie de carburant. Puis le 2.7, il est surprenant, ce petit moteur-là. Au niveau de la puissance, là, vous allez voir qu'il va vous surprendre. Moi, je riais de tout ça quand j'ai vu arriver. Et il y a quand même une belle capacité de remorquage avec le 2.7. En ville, il consomme un peu le 2.7, mais sur la route, c'est vraiment de l'économie. Le 3.5 et le 5 litres, évidemment, consomment plus. Alors, c'est le 2.7 que vous devez aller chercher comme motorisation pour espérer sauver un peu de carburant. Ouais. Mais quand vous allez charger, vous allez lui peser dessus, vous allez voir que ça consomme un peu pareil.
Le 2.7, il consomme beaucoup, là. Quand on charge, quand on tire, c'est un moteur qui consomme énormément, là.
Il arrive à la même place que le 5 litres ou à peu près, mais sur la route, quand vous ne tirez pas, vous ne chargez pas, vous allez avoir de l'économie de carburant. Le GM 5300 est un peu et 4700 maintenant. Je ne me souviens plus des appellations de l'autre motorisation, mais je sais que le GM est un peu plus économique.
Donc, vous me conseillez, parce que je vous dirais que je vais tirer 3 fois dans l'année. Ford avec le 2.7 biturbo au niveau consommation d'essence, je serais bien
là-dessus. Oui, totalement. Totalement, vous allez avoir le meilleur des deux mondes. Comme on vous disait, c'est sûr que quand vous allez tirer, vous allez peut-être penser à nous autres un peu moins gentiment. Mais pour le reste, quand vous allez être en ville, le 2.7, c'est vraiment un véhicule qui est très souple. Le moteur est très agréable. À basse vitesse, ça ne boit pas. Honnêtement, c'est un très bon choix.
Ben, hey, merci beaucoup. Puis comme vous me dites que je sois avec un 5 litres ou un 2.7, je vais me rendre à la même place.
Ah, ben oui, puis vous allez être surpris. C'est sûr que vous allez devoir peser quand vous allez vouloir avoir de la puissance, mais vous allez être étonné de la puissance. Ce petit moteur-là, il peut en sortir de la puissance, puis il est le fun. Puis il y a même un beau son.
Merci beaucoup.
Merci,
ben,
salut.
Bonne journée, merci.
Merci. Louis-Philippe est là. Bonjour, Louis-Philippe.
Bonjour, ça va bien?
Ben oui.
Oui, écoutez, moi, je passe à travers le paiement de mon Ford Escape 2014 d'ici les 6 prochains mois. Mmh. Et j'ai souvent été très, très déçu à propos de ce que l'écran électronique me dit en termes de consommation d'essence versus les kilomètres réels que je fais avec. Je peux faire une tank de peut-être 550 km, mais en réalité, souvent sur le dash, il va me dire que j'en aurais pour 700-800, puis pourtant, c'est de la longue route que je fais. Est-ce que c'est un problème qui est tout le temps avec les Ford? Parce que j'aime beaucoup Ford, mais je me demandais si je devrais peut-être aller plus regarder pour dans le Honda ou le Toyota, dans l'équivalent.
Attention, et ça, c'est vrai parce que j'ai eu cette question-là il n'y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question-là. Et il faut faire attention. Au moment où on fait le plein, l'ordinateur de bord va calculer le kilométrage possible à faire avec votre dernière consommation. C'est-à-dire que si vous arrivez de faire que de l'autoroute, par exemple, vous faites un voyage à Toronto, vous faites que de l'autoroute, vous faites le plein là, après 2-3 heures de route, seulement de l'autoroute, vous allez voir que votre autonomie va être pas loin de 800 km. Par contre, si vous êtes l'hiver en ville, et là, vous faites le plein après avoir fait des trajets en ville ou avoir remorqué ou peu importe, là, vous allez voir que l'ordinateur, d'abord, va vous donner une consommation beaucoup moindre ou une autonomie beaucoup moindre. Alors, il y a ça qu'il faut faire attention lorsqu'on fait le plein, au moment où on fait le plein, dépendamment de nos derniers kilomètres, c'est là que l'ordinateur fait la différence et il se réajuste au fur et à mesure. Des fois, tu peux partir faire de la route, tu as 300 km d'autonomie et moi, je fais souvent le parc des Laurentides, par exemple. J'arrive dans le parc des Laurentides, puis j'ai 200-300 km de fait, puis mon autonomie a baissé de seulement 100 km. Alors, ça s'ajuste au fur et à mesure. C'est ça qu'il faut faire attention et c'est propre à toutes les marques.
OK, OK. Puis au niveau confort, si je regardais, parce que moi, je pense pas le garder, mon Escape, en tant que tel, parce que je fais énormément de routes. Fait que quand je vais avoir fini, il va déjà avoir 125 000 km dessus. Donc, si je regarde une couple d'autres années, je finirai que j'aurai plus jamais de valeur de revente. Là, je me disais, est-ce que je devrais continuer dans les nouveaux Escape ou peut-être regarder plus quelque chose comme un Nissan Rogue ou un Toyota RAV4? En termes de fiabilité pour la longue route, confort,
Je pense que le nouveau Escape est effectivement un bon choix parce que vous avez le confort. Vous connaissez déjà la marque Ford. Vous êtes habitué avec ce système-là. Vous allez constater qu'on a fait pas mal d'améliorations au véhicule. C'est un excellent choix. Je vous dirais personnellement, moi, que le Nissan Rogue est un excellent véhicule, mais c'est pas un véhicule que je recommande à long terme. C'est un véhicule qui s'use rapidement, si vous voulez, quand on l'utilise abondamment. moment. Alors, à mon avis, moi, je retournerai vers le Ford, tout simplement.
OK. Bon, ben merci beaucoup de vos recommandations.
Bonne merci journée. D'avoir appelé. Alors, Francis est là. Bonjour, Francis.
Salut, ça va bien?
Ben oui, ça va bien.
Yes. Moi, en fait, là, j'ai comme vendu mon auto que j'avais avant, qui marchait pas mal. J'avais un Cobalt SS 2010. Là, je suis rendu avec ma Cruze, puis c'est blanc. Fait que je regarde pour changer quelque chose. On se tourne à quelque chose d'un peu plus puissant. J'ai coupé dans la tête, là, mais des fois, je cherche des petits sleepers ou quelque chose comme ça. Là. Regardé peut-être un Mazda CX-3, année 2013 à 2014 Blue. Environ. Non, des choses non. comme ça. Je veux pas aller faire un Civic SI parce que j'aurais pas plus de place, mettons. Non, je pensais aussi que ça n'a aucun rapport les deux, mais au niveau du prix, puis de ce que j'ai, j'aime bien Chevrolet, comme vous pouvez constater. J'ai regardé avec une Malibu LTZ 2015 avec un moteur turbo.
Bof.
J'ai
quasiment le goût de vous dire, trouvez-vous donc un autre Cobalt SS, parce que dans ce que vous me disiez là, il y a pas dans un Malibu là, vous aurez, c'est sûr que vous allez le regretter. C'est une grosse voiture, c'est pas le fun, c'est pas agile. Et malheureusement, dans les petites voitures agiles, il y a le Juke qui me vient en tête là, version Nissimo peut-être qu'on pourrait être. C'est trop petit. Tant qu'à ça, si vous voulez pas aller dans le Civic SI, qui est, à mon avis, le mieux balancé de la gang, puis tu n'as pas besoin de faire grandes modifications, ça va être dur à trouver.
WRX, peut-être. Une Subaru WRX pourrait être un choix intéressant si vous en trouvez une qui n'est pas trop chère. Une Mazda 3, Mazda Speed, oubliez ça. Vous allez mourir d'une fracture du crâne. Les suspensions sont dures. Il y a de l'effet de coupe dans le volant tout le temps. C'est vraiment
vous allez mettre l'argent dans vos poches parce que ça coûte cher d'entretien également, Mazda 3
Énormément.
Speed. Alors, merci, je dois vous laisser.
Il y a pas d'autres choses qui sortent comme ça là, dans vos têtes.
Ben, une GTI, si vous êtes capable de vous trouver une GTI, c'est sûr que usagée, qui n'a pas été trop maganée, ou encore une Jetta GLI. Une Jetta GLI, là, vous allez pouvoir trouver ça. Et sans trop de modifications, c'est une voiture qui est fort agréable. Vous allez avoir de l'espace, un 4 portes, et ça, c'est un vrai sleeper. C'est
et
une
pas
vraie
cher,
voiture qui paraît de rien. Puis vous allez pouvoir en trouver les années 2015, 2014, 2015 à quoi? 15, 16, 17 000?
Oui, parce que les gens ne pensent pas à ce véhicule-là. Alors, c'est pas un véhicule qui a une grosse valeur de revente. Vous devriez avoir ça pas trop cher.
Merci d'avoir appelé. Bien gentil. Nous rappellerez pour nous dire qu'est-ce que vous avez trouvé.
Oui, effectivement.
On fait une pause. Au retour, Philippe Lagu est là et on va poursuivre les appels tout de suite après.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Auto 360 avec Daniel Boudreau.
On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Au réseau Cogeco,
vous écoutez Auto 360.
Auto 360
avec Daniel Boudreau.
Auto 360, voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Oui, nous sommes de retour avec Philippe et ton premier bloc. Tu vas nous parler de Maserati.
Avec grand plaisir. On le disait en début d'émission, Daniel, là, s'il existe une sainte trinité dans l'industrie automobile, elle est assurément italienne et elle est composée de Ferrari, Maserati et Lamborghini. Et bon, comme le savent ceux et celles qui fréquentent mon site ou ma page Facebook, je suis un grand amoureux de l'Italie et de ses voitures. Alors, je vous propose donc, aujourd'hui, les deux premiers volets de ce que j'ai appelé ma trilogie italienne. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur mon site www.philippelagu.com en même temps que vous écoutez l'émission, parce que toutes les photos des marques dont on parle aujourd'hui sont là, tous les modèles importants, et en plus, vous avez un résumé écrit là, de nos deux sujets d'aujourd'hui. Donc là, vraiment, on fait de la convergence, Daniel.
C'est parfait. Ça.
Et j'ai choisi de commencer par Maserati parce que c'est une chronique historique. Et la chronologie, c'est important dans une démarche historique. Alors, c'est Maserati qui est la plus ancienne des trois marques. Elle a fêté son centenaire en 2014. Et c'est son ancienneté qui lui vaut le privilège, donc, d'être la première dont on va parler. Et contrairement à Ferrari ou Lamborghini, Maserati, c'est pas l'affaire d'un seul homme, mais d'une fratrie. Rodolfo Maserati et son épouse Carolina ont 7 fils qui sont tous nés à Voghera, en Lombardie. L'un d'entre eux, Alfieri, va mourir à l'âge d'un an, mais le bébé suivant va se voir attribuer le même prénom. Puis vous allez voir, c'est un prénom qui est important dans l'histoire de Maserati, puis il va peut-être être même important dans le futur de Maserati, parce qu'on a un prototype qui porte ce nom-là depuis quelques années, puis on ne sait pas trop, il va-t-il aller en production ou pas, enfin. Alors, le paternel, le père des frères Maserati, est le conducteur du train du roi d'Italie. Puis c'est aussi un passionné de mécanique, puis il va transmettre sa passion à ses fils en les amenant régulièrement dans sa locomotive. Alors, la graine est semée à ce moment-là parce que 5 des 6 frères Maserati deviennent des ingénieurs en mécanique. Et l'artiste de la famille, Mario, qui est peintre et dessinateur, va contribuer lui aussi à la future entreprise familiale en dessinant son emblème, le célèbre Trident. L'inspiration lui vient d'une statue, de Neptune qui trône au milieu d'une fontaine au centre de Bologne, là, dans un parc, qui est tout près de l'atelier de ses frères. Puis Neptune incarne la force et la puissance, et sa statue est un des symboles de la ville de Bologne. Les autres frères, eux, ont vraiment les deux mains dedans, là, comme on dit. Ils construisent, ils réparent, ils pilotent même des voitures de course. L'aîné des frères, Carlo Maserati, travaille d'abord chez Fiat, puis chez Isotta Fraschini. Ça, Daniel, ça te sonne peut-être une cloche. C'est une marque vraiment très prestigieuse là, de l'entre-deux-guerres. Et chez Isotta Fraschini, ben, il y a... Un à un, ses frères vont aller le rejoindre là. Alors Alfieri, Bindo, Ernesto et Ettore Maserati vont tous travailler à un moment ou à un autre là, pour Isotta Fraschini. La tuberculose va emporter Carlo en 1910. L'entreprise familiale, qui est devenue un atelier spécialisé dans la préparation de voitures de course, va voir le jour, elle, 4 ans plus tard, c'est-à-dire en 1914, à Bologne. Mais 1914, c'est aussi le début de la Première Guerre mondiale et les frères Maserati sont appelés sous les drapeaux, à l'exception d'Ernesto qui, lui, s'occupe de la gestion de l'atelier familial. Mais l'atelier a été converti en usine de fabrication de bougies d'allumage pour les véhicules militaires. Après la guerre, l'entreprise va retrouver sa vocation originelle, c'est-à-dire que les frères Maserati recommencent à construire des moteurs et des voitures de course, d'abord pour Isotta Fraschini et ensuite pour Diato, alors deux marques italiennes qui sont aujourd'hui disparues. Il faut dire que Alfieri Maserati a aussi des talents de pilote et il remporte plusieurs épreuves au volant des bolides là, qu'il prépare avec ses frères. Et ça, ça aide à se faire un nom. Hein?
Ben oui.
Et le grand pas, ben, il va être franchi en 1926. Alfieri Maserati décide alors de devenir constructeur avec, évidemment, le soutien indéfectible de ses frères. La première Maserati est une voiture de Grand Prix. On n'avait pas de... La Formule 1 n'existait pas à l'époque. On appelait ça des Grands Prix. Alors, la première Maserati est une voiture de Grand Prix motorisée par un V8, un petit V8 à 1,5 litres avec un compresseur. Et elle est baptisée Tipo 26 parce que c'est l'année de sa naissance. Et 2 ans plus tard, Alfieri va subir un grave accident en course et il va finalement mourir de complications liées à ses blessures en 1932. Et ça, c'est un dur coup pour les frères Maserati parce qu'ils viennent en quelque sorte de perdre leur leader. Et là, c'est Bindo Maserati qui était resté, lui, chez Isotta Fraschini, où il a travaillé pendant 20 ans, qui revient prendre les rênes de l'entreprise familiale à titre de président. Ses deux frères, deux de ses frères, Ettore et Ernesto, se voient confier respectivement la direction technique et financière. Mais malheureusement, les trois frères sont peut-être des très bons ingénieurs, mais pas de très bons gestionnaires. Et finalement, ben, ils vendent leur part en 1937 à la famille Orsi. Ça, ce sont des industriels de Modène. Et par contrat, les frères Maserati vont rester liés à l'entreprise pour 10 ans. Pour s'occuper du volet technique. Et Adolfo Orsi, lui, devient le nouveau président de Maserati. Et comme c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, ben, on déménage aussi les ateliers Maserati à Modène en 1940. Et c'est là que sont construites les Maserati depuis ce temps, donc depuis 1940. Et bien, entre-temps, Maserati continue de s'illustrer sur les circuits parce qu'on l'oublie trop souvent, mais la marque italienne a remporté les 500 000 d'Indianapolis 2 années d'affilée, en 1939 et en 1940. Et là, la Deuxième Guerre mondiale va éclater et Maserati va se consacrer de nouveau à la fabrication de bougies pour les véhicules militaires. Alors, c'est comme un peu le jour de la marmotte, mais version automobile, là. Puis après la guerre, ben le contrat des frères Maserati prend fin. Hein, c'est un contrat de 10 ans. Et le contrat prend fin en 1947, précisément. Et là, les frères Maserati quittent l'entreprise qui porte leur nom pour fonder Osca à San Lazzaro. Ça, c'est en périphérie de Bologne. Ça, c'est une aventure, là, Osca. C'est une aventure qui va durer à peu près 20 ans, pendant lesquelles, les 20 années pendant lesquelles les trois frères vont développer un nouveau créneau, celui des voitures de course et des voitures sport à petite cylindrée. Ce qui les empêche pas d'ajouter quand même hein, les 12 heures de Sebring à leur palmarès en 1954 grâce au talent du légendaire pilote britannique Stirling Moss. D'ailleurs, les plus grands pilotes ont couru pour Maserati, les plus grands pilotes de l'époque, à commencer par Stirling Moss et bien sûr Fangio, qui a été champion du monde en 1957 avec Maserati. Sauf que pendant ce temps-là, Maserati, sous la gouverne d'Adolfo Orsi, décide de se retirer de la compétition là, au début des années 60 pour se reconvertir, pour vraiment là, s'en tenir à la fabrication de voitures de sport routières, les fameuses GT. De l'appellation italienne Gran Turismo. Alors, la 3500 GT est lancée en 1957 et c'est la première d'une longue série de GT qui vont faire la renommée de celle qu'on appelle maintenant la firme de Modène depuis son déménagement. Comme Lamborghini et Ferrari, ben, la marque au trident a aussi traversé des années tumultueuses. Hein. Elle a survécu à plusieurs changements de propriétaires dans les années 70, 80, 90. Parmi ceux qui ont été propriétaires de Maserati, on peut mentionner Citroën, on peut mentionner De Tomaso, on peut mentionner aussi Chrysler. Mais depuis 1993, Maserati fait partie de l'empire Fiat. Qui contrôle le groupe FCA, Fiat Chrysler? Alors là, c'est l'inverse, là. C'est Maserati maintenant qui a absorbé, en fait, Maserati qui est une des composantes de Fiat qui a absorbé Chrysler. Faut mentionner en terminant qu'Alfa Romeo et Ferrari font également partie de l'empire FCA. C'est quand même un portefeuille
mais
de marque.
Mais pour combien de temps?
Ah, ça c'est la grande question. Mais quand même, faut mentionner une chose, Daniel. Depuis l'arrivée de Fiat dans le portrait, les affaires roulent quand même assez rondement. Hein, parce que Maserati, au tournant, là, du 21e siècle, au début des années 2000, Maserati ne fabriquait même pas 2000 voitures par année. Et l'année passée, ça a été une année de production record avec 42 000 véhicules. Alors, je serais surpris que Maserati disparaisse. Ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'est-ce que Sergio Marchionne va faire avec les marques de FCA, c'est ça?
C'est ça. Est-ce que on ne se débarrassera pas d'une division. Est-ce que Maserati pourrait être intéressant pour un autre constructeur? On ne le sait pas parce que l'histoire le dit. Là, souvent, des constructeurs comme ça, des plus petits constructeurs de prestige se font racheter et joignent un autre groupe. Est-ce que Maserati pourrait rejoindre un autre groupe? Est-ce que Ferrari pourrait rejoindre un autre groupe?
Moi, je pense que Ferrari a les reins assez solides pour rester indépendant. Ce qui serait intéressant de voir, c'est qu'est-ce qu'Alfa Romeo et Maserati vont devenir. Est-ce que ça pourrait être incorporé, relié à Ferrari? Est-ce que ça pourrait... Tu sais qu'il y a eu des grosses rumeurs de rachat par Volkswagen, surtout dans le cas d'Alfa Romeo. Alors, l'histoire continue de s'écrire en attendant, mais on peut quand même dire que Maserati ne s'est jamais aussi bien porté.
Et voilà. Deuxième bloc.
Avec un VUS en plus dans sa gamme, ça aide toujours à survivre aussi. Porsche l'a montré.
Absolument. Alors, on se reparle tantôt. Merci, Philippe.
On se parle de Lamborghini tantôt.
Oh, Lamborghini.
Ciao.
Voilà. On arrête et on part.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Auto 360, de retour après la pause.
Au réseau Cogeco. Au réseau Cogeco.
Auto 360.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Voilà, nous sommes de retour. Je vous donne les numéros pour Montréal, 514-790-9850, Québec 418-670-9330, ailleurs 1-866-790-9850 ou auto360@cogecomedia.com. Nous sommes enfin de retour et on va parler tout de suite à Pierre.
Oui, bonjour. Oui, est-ce que vous m'entendez?
Ben oui, Pierre.
OK, merci. Merci pour votre émission. Moi c'est une chose qui me fatigue. Les gens, là, je sais pas si ça doit être légal, mais les gens qui posent des petites lumières bleues en avant, là, qui nous aveuglent le soir.
Ouais, les LED, là, les barres de LED, là.
Ben, je pourrais pas. Peut-être pas les LED, mais on dirait qu'ils achètent ça, là, ils payent pas cher, mais qui nous aveuglent. je comprends pas qu'ils tolèrent ça sur la route. C'est un peu ça que je voulais juste mentionner. Je sais pas si ça doit être légal, ça a dû passer des tests, mais c'est quasiment pire que les autres. Tu sais, t'es croisé sur la route, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens, là, ils achètent ces super spots-là, là, puis ils installent ça. Fait que là, t'as l'impression d'être
un super roquette sans vie. Pierre, le problème, c'est qu'ils sont souvent mal ajustés. Moi, j'ai pas de problème parce que la mode, là, c'est au bar. Là, il y a des genres de barres de LED très lumineuses qu'on peut activer de l'intérieur du véhicule. Mais lorsque ces barres-là sont utilisées, entre autres, c'est très pratique l'hiver, mais ils sont inclinés vers là-bas du fait qu'il n'y avait pas les autres voitures qui passent. Effectivement, moi, je pense qu'il pourrait y avoir une protection ou plutôt une vigilance policière accrue pour ce genre de modification-là. D'ailleurs, toutes les modifications, il y en a pas mal là, au niveau des lumières. Vous avez raison. Puis souvent, on change même la couleur de la lumière dans le bloc optique directement. Hein?
C'est ça. Normalement, on n'a pas le droit de toucher au feu. On doit garder ça de série. C'est ce que le Code de la sécurité routière a dit. Ce que vous mentionnez aussi, c'est un problème, évidemment, d'ajustement, comme Daniel l'a mentionné. Ça aussi, normalement, il y a une règle à l'effet que votre voiture ne doit pas aveugler quelqu'un à plus que tant de distance. Là, j'ai pas la distance sous la main. Normalement, c'est pas permis. Mais évidemment, il n'y a pas toujours un policier qui est en avant de toutes les voitures pour mesurer. Là.
Arrêter le monde, Marc. Je ne sais même pas si on prend la peine d'arrêter le monde lorsque les
on le fait avec les affaires de tuning. Hein. C'est quand on arrête la voiture pour un autre problème, on va faire cette vérification-là. Mais normalement, je ne pense pas qu'effectivement, il y ait une vérification formelle là-dessus. Là.
On vit les deux côtés, Pierre. Soit que les voitures nous aveuglent ou soit qu'ils n'allument pas leur lumière. C'est un ou l'autre.
Oui, ça, c'est peut-être. Tu sais, je ne dis pas, le gars, il est dans le. Tu t'en vas dans le bois, là, tu es tout seul. Ton chalet, OK, t'as besoin des spots, mais en ville, je trouve que c'est pas courtois, tu sais. Encore, c'est arrivé, puis j'étais aveuglé, puis je me dis, puis le laps de temps que ça dure, ça peut être dangereux, en fait. Hein.
Absolument, vous avez raison, il y en a d'autres. Il y a des gens qui les utilisent pour intimider les autres. Ils sont pas contents parce qu'ils se font couper, paf, ils nous allument ça.
Ben voilà, très, très bon point.
Et très bon même point là-dessus. Les camionneurs aussi nous les allument par des fois. <aussi.
rire> Mais c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a de plus en plus, par contre, de systèmes automatisés qui font que quand ils détectent une lumière en face, ils tombent automatiquement ces feux de croisement. Ça, c'est de plus en plus fréquent, mais ça prend malheureusement généralement une voiture de luxe pour y l'avoir.
Merci beaucoup, Pierre. Ouais. Très gentil, ouais, très bon propos. Merci d'avoir appelé, c'est bien fait. Sylvain est là. Bonjour, Sylvain.
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'ai fait l'acquisition de Doulotte récemment qui va peser 2000 livres. J'ai jamais eu Doulotte comme tel. Puis là, je suis à la recherche d'un VUS pour remplacer mon véhicule. Alors, j'ai fait les recherches un petit peu, cherche à la fois, évidemment, l'économie, le confort, la fiabilité. Actuellement, mon regard s'est posé sur Toyota Highlander hybride. C'est quand même une voiture qui coûte relativement cher. Cherokee, puis une nouvelle RAV4 Trail qu'on parle. Qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce que vous avez mis le Honda Pilot dans votre choix, non?
Non, c'était une question. Je regarde beaucoup la consommation. Non, mais je l'ai vu. Je l'ai mis dans l'équation, mais je l'avais mis à l'écart pour le moment.
OK. Ben moi, le premier choix, c'est le Highlander Hybrid. C'est sûr que si, financièrement parlant, vous pouvez vous rendre là, parce que je sais qu'il est un peu plus cher de ce côté... c'est le choix numéro un. Il y a de l'espace. Le système Synergie, le système de Toyota est très performant. Il est fiable. Alors, moi, je pense qu'au niveau du véhicule, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut faire attention au niveau du poids du système hybride parce que là, vous avez une transmission qui n'est pas une CVT traditionnelle, mais vous allez avoir une transmission et un système qui va faire en sorte que si vous avez votre roulotte qui est 2000 livres, vous ajoutez des passagers, vous ajoutez du bagage, ça risque d'être un peu serré.
Moi, mon problème avec
la capacité de remorquage,
c'est 3500 livres, mais
ça va être serré très rapidement.
Mais à ce prix-là, à 50 000 $ de base, le hybride, là, faut quand même... vous avez parlé du RAV4 Trail. Le RAV4 Trail qui arrive est, à mon avis, beaucoup plus intéressant parce qu'il est plus abordable. Il a la même capacité de remorquage à 3500 livres.
Moi,
on a modifié les suspensions. On a modifié plein d'affaires. Écoutez, on parle d'un véhicule qui va être 12 000 au minimum 12 000 $ moins cher que la version de base hybride.
Ça, c'est un super point, mais... j'aimerais ça que vous en alliez vers peut-être le régulier à 5 000 livres pour vous donner de la marge de manœuvre au niveau de votre poids que vous allez tirer, parce qu'avec le bagage, les passagers et tout ça, à 3500, vous êtes trop juste. On doit se laisser là-dessus. Alors, vous en allez vers le 5000 livres avec le pilote, le Pathfinder ou encore le Highlander. On vous revient. Restez là.